Avril. Le printemps. Samedi 1er. Le 1er avril. Nous n'avons plus que 3 mois d'école. La matinée a été une des plus belles de l'année. J'étais content parce que Corette y m'a invité à aller après-demain voir l'entrée du roi avec son père, qui le connaît. Puis maman m'a promis de me conduire visiter l'asile du cours Valdocco. Et ce qui me fit grand plaisir encore, ce fut d'apprendre que le petit maçon allait mieux. Hier soir, M. Perbonne y a dit à mon père en passant « Il va bien, il va bien !» Quelle belle matinée de printemps! On voyait le ciel bleu par les croisées de la classe, les arbres du jardin tout couverts de bourgeons et les fenêtres des maisons grandes ouvertes avec leurs pots de fleurs déjà verdissants. Le professeur ne riait pas parce qu'il ne rit jamais. Pourtant, il était de bonne humeur, à ce point qu'on n'apercevait presque plus cette ride profonde qui creuse son front. Il expliquait un problème sur l'ardoise, et on voyait qu'il respirait avec plaisir l'air embaumé de terre humide et de feuilles fraîches qui arrivaient en bouffées par les fenêtres ouvertes. Ce beau temps faisait déjà penser aux promenades à la campagne. Pendant que le maître expliquait le problème, on entendait un forgeron qui battait l'enclume dans une rue voisine, et de la maison en face arrivait le chant d'une mère qui endormait son poupon. Au loin, à la caserne de la Tchernaïa, sonnaient les clairons. Tout le monde enfin paraissait gai et content, jusqu'à Stardi, le farouche Stardi. À un certain moment, le forgeron frappa plus fort, la femme chanta plus haut. Le maître s'interrompit et prêta l'oreille. Puis il dit lentement en regardant par la fenêtre. Le ciel sourit, une mère chante, un brave homme travaille, des enfants étudient. Voilà certes de belles choses réunies. Au sortir des classes, nous nous aperçûmes que les autres écoliers étaient aussi gais que nous. Ils marchaient tous à la file, frappant du pied et chantant, comme à la veille d'un jour de grandes vacances. Les maîtresses riaient. Celle à la plume rouge sautillait derrière ses élèves comme une fillette. Les parents parlaient entre eux, souriant, et la maman de Crossi, la fruitière, avait son panier si plein de violettes qu'il embaumait tout le vestibule. Je ne vis jamais autant de joyeux sourires que dans cette matinée où ma bonne mère vint à ma rencontre. « Je suis content, lui dis-je en allant vers elle. Pourquoi donc suis-je si content ce matin ?» Ma mère me répondit en souriant que c'était parce qu'il faisait beau et que j'avais la conscience tranquille. L'asile. Mardi 4. Ainsi qu'elle me l'avait promis, maman m'a conduit hier après déjeuner à l'asile pour recommander à la directrice la petite sœur de Precossi. Je n'avais jamais vu un asile et celui-ci me plaît infiniment. Il y avait là 200 enfants, petits garçons et petites filles, auprès desquels nos bambins de la petite classe sont des hommes. Nous arrivâmes au moment où les enfants entraient au réfectoire. On y voit 2 longues tables percées de trous et dans chaque trou une écuelle noire pleine de riz et de haricots, une cuillère d'étain à côté. En entrant, quelques-uns tombaient sur le plancher et restaient là étendus jusqu'à ce qu'une maîtresse accourut les ramasser. Beaucoup s'arrêtaient devant une écuelle, persuadés que c'était la leur, et déjà ils avalaient une cuillerée quand la maîtresse arrivait et leur disait « En avant !» Et 4 pas plus loin, « Vlan !» Les mêmes avalaient une cuillerée nouvelle et encore une autre plus loin, jusqu'à ce qu'ils arrivassent à leur place, après avoir becqueté ainsi à la volée la moitié d'un potage. Cependant, à force de les pousser, de leur crier « Avancez ! Avancez !» on les rangea tous et la prière commença. Mais ceux qui se trouvaient obligés de tourner le dos à leur écuelle pour prier se donnaient des torticolis pour ne pas la perdre de vue, afin que personne n'y péchât, et s'ils priaient les mains jointes et les yeux au ciel, leur cœur était à la soupe. Enfin, ils se mirent à manger. Quel gracieux tableau ! L'un mangeait avec 2 cuillères, l'autre avec les mains. Beaucoup ôtaient les haricots un à un et se les mettaient en poche. D'autres, au contraire, les enveloppaient étroitement dans un coin de leur tablier et appuyaient dessus pour les écraser. Il y en avait qui oubliaient de manger pour regarder voler les mouches. D'autres, en toussant, éparpillaient une pluie de riz autour d'eux. On aurait dit un poulailler. Mais c'était gentil quand même, cette double file de minois roses, les fillettes surtout, avec leurs cheveux noués sur le haut de la tête par des rubans rouges, bleus, verts. Une maîtresse demanda à un groupe de 8 fillettes. « Où naît le riz ?» Toutes les 8 ouvrirent une bouche pleine de soupe et répondirent d'une voix chantante. « Il naît dans l'eau !» La maîtresse commanda. « Les mains en l'air !» Alors s'élevèrent tous ces jolis petits bras qui, il y a quelques mois, étaient encore dans les langes et ces petites mains qui ressemblaient à autant de papillons blancs et roses. On alla ensuite en récréation. Mais d'abord, tous prirent leur panier où était enfermé le déjeuner et qui était accroché au mur. Ils sortirent dans le jardin et s'éparpillèrent pour tirer leurs provisions des paniers, du pain, des pruneaux, un petit morceau de fromage, un œuf dur, une poignée de pois bouillis, une aile de poulet. En un instant, le jardin fut parsemé de miettes, comme si on les eût jetées pour attirer les moineaux. Ils mangeaient dans les postures les plus étranges. On aurait dit des lapins, des rats et des chats, rongeant, léchant, suçant. Un bébé tenait un grissini sur sa poitrine et le lissait avec une nèfle. Les fillettes couraient et se poursuivaient, leur panier entre les dents, comme des petits chiens. J'en vis 3 qui creusaient un œuf dur à l'aide d'un petit bâton, croyant y découvrir des trésors. Ils en répandaient la moitié par terre, la ramassaient miette par miette, avec une grande patience, comme s'il se fût agi de ramasser des perles. Et autour de ceux qui avaient pour déjeuner quelque chose d'extraordinaire, 8 ou 10 autres se tenaient la tête baissée pour regarder dans le panier. On aurait cru qu'ils regardaient la lune dans un puits. Ils étaient bien une 20aine autour d'un bambin qui avait un cornet de sucrerie, lui faisant 1000 grâces afin d'obtenir la faveur d'y frotter leur pain, et lui l'accordait aux uns, et à d'autres qu'il avait prié bien fort, il donnait seulement son doigt à sucer. Ma mère était venue au jardin pour caresser tantôt l'un tantôt l'autre. Beaucoup l'entouraient, l'assiégeaient, tendant leur visage en l'air, comme s'ils regardaient à un 3e étage pour avoir un baiser. Un petit lui offrit un quartier d'orange mordillé, un autre une croûte de pain, une petite fille donna une feuille. On lui mettait sous les yeux, en fait de merveille, des insectes microscopiques. Je ne sais comment ils avaient pu les recueillir. Pendant ce temps, il arrivait ça et là 1000 accidents qui faisaient accourir les maîtresses. Des fillettes pleuraient parce qu'elles ne pouvaient dénouer le nœud de leur mouchoir. D'autres se disputaient à coups d'ongles et à grands cris 2 pépins de pommes. Un enfant qui était tombé sur un petit banc renversé sanglotait sans pouvoir se relever. Avant de s'en aller, maman en prit dans ses bras 3 ou 4 et alors ils accoururent de tous côtés pour se faire prendre, malgré leur figure teinte de jaune d'œuf et de jus d'orange. C'était à qui lui prendrait les doigts pour regarder ses bagues, lui tirerait sa chaîne pour voir sa montre. D'autres voulaient l'attraper par ses nattes. « Faites attention, ils vont abîmer votre robe !» disaient les maîtresses à maman. Mais maman, à qui cela était bien égal, continuait à les caresser et tous voulaient arriver à elle, les bras tendus, se disputant pour parvenir les premiers et criant tous « Adieu ! Adieu !» Enfin, nous pûmes nous échapper du jardin et les enfants se mirent alors le nez contre les grillages afin de nous voir passer. Ils sortaient leurs petits bras dehors pour saluer maman, lui offrant encore croûtons de pain, croûte de fromage et morceaux de nèfle en criant tous ensemble « Adieu ! Adieu ! Reviens demain !» Ma mère, en s'en allant, passa encore ses mains sur les centaines de petites mains qui se tendaient vers elle comme sur une haie de roses vivantes, et sortit dans la rue, toute couverte de miettes et de taches, les mains pleines de fleurs et les yeux pleins de larmes, heureuse comme si elle fût revenue d'une fête, et on entendait encore à l'intérieur de l'asile un gazouillement d'oiseaux qui disait « Adieu, adieu, reviens une autre fois, madame !» À la gymnastique, mercredi 5. Le temps continuant à être très beau, on nous a fait passer de la gymnastique en chambre à celle des agrès, installée dans le jardin. Garonne se trouvait hier dans le cabinet du directeur, quand la mère du petit Nelly vint pour le faire dispenser des nouveaux exercices de gymnastique. Chaque parole lui coûtait un effort et elle appuyait sa main sur la tête de son fils tout en disant au directeur « Il ne peut pas !» Nelly se montrait très attristée d'être exclue des trapèzes, de subir encore cette humiliation. « Tu verras, maman, disait-il, je ferai comme les autres !» La mère le regardait en silence avec pitié et douceur, puis elle dit avec une certaine hésitation « Je crains que ses compagnons !» Elle voulait dire « ne se moquent de lui ». Nelly répondit « Cela ne me fait rien, j'ai garonné, il me suffit que lui ne rie pas de moi. » On le laissa donc venir à la gymnastique. Le maître nous conduisit d'abord aux barres verticales qui sont très hautes. Il faut grimper jusqu'en haut et se mettre droit ensuite sur la poutre transversale. Derossi et Corette y grimpèrent comme deux singes. Le petit précoce y monta également très bien, quoiqu'il fût gêné par sa grande jaquette qui lui tombe jusqu'au genou. Pour le faire rire pendant qu'il montait, on lui répétait sa phrase habituelle « Excusez-moi ! Excusez-moi !» Stardi s'essoufflait, devenait rouge comme un dindon, serrait les dents comme un chien enragé, voulait parvenir en haut, dut-il y rester ensuite. Il y arriva en effet. Quand Nobis fut arrivé à son tour sur la barre d'en haut, il y prit une pose d'empereur. Votini glissa deux fois, malgré son beau costume neuf à rayures bleues, fait tout exprès pour la gymnastique. Pour monter plus facilement, nous nous étions tous barbouillés les mains avec de la colophane en poudre. On savait que Garoff y se faisait d'affaires, en fournissait à tous, moyennant un sou le paquet, en gagnant certainement quelque chose sur la quantité. Arriva le tour de Garonne, qui grimpa tout en mangeant son pain comme si de rien n'était, et je crois qu'il aurait été capable de porter quelqu'un sur ses épaules, tant il est fort ce petit taureau. Après Garonne, voilà Nelly. À peine le vit-on embrasser la barre de ses mains longues et frêles qu'on se mit à rire et à chuchoter. Mais Garonne croisa ses bras sur sa poitrine et lança autour de lui un regard qui promettait si clairement des taloches que chacun se tut comme par enchantement. Nelly commença à grimper avec beaucoup de peine. Le pauvre petit avait le visage en feu, la sueur coulait sur son front. Le maître lui dit « Descendez !» Mais il s'obstinait, s'efforçait. Je m'attendais d'un moment à l'autre à le voir dégringoler en bas, à demi-mort. Je songeais que si j'avais été à sa place et que ma mère m'eût vu, elle en aurait tant souffert. Et lui, en y pensant, je me sentais aimer plus encore mon pauvre camarade. J'aurais donné je ne sais quoi pour qu'il réussît à monter jusqu'en haut. Si j'avais pu le pousser sans qu'on le vît... Pendant ce temps, Derossi, Corretti et Garonne disaient « Monte, monte, Nelly, encore un peu de courage !» Nelly fit encore un violent effort, poussa un gémissement et se trouva à deux doigts de la poutre. « Bravo » cria-t-on, « courage, encore une poussée !» Et voilà Nelly qui empoigne la poutre. On battit des mains. « Bravo !» dit le maître, « mais c'est assez, descendez !» Nelly n'écouta pas, il voulait monter dessus comme les autres. Après quelques efforts, il réussit à y poser les coudes, puis les genoux et enfin les pieds. Alors il s'y dressa debout, soufflant et triomphant, et nous regarda. Nous l'applaudîmes de nouveau. Il jeta alors un coup d'œil dans la rue. Je me tournai de ce côté et, à travers les plantes qui couvrent la grille du jardin, je vis sa mère qui se promenait sur le trottoir sans oser regarder. Nelly descendit et tout le monde lui fit fête. Il était excité, animé, ses yeux brillaient, il semblait transformé. Quand sa mère vint à sa rencontre à la sortie et lui demanda un peu inquiète en l'embrassant « Eh bien, mon pauvre figlio, comment cela a-t-il été ?» Ses camarades répondirent pour lui « Très bien, il a très bien monté, il a monté aussi bien que nous. Il est fort, allez, il est leste, il fait comme les autres. » Il fallait voir la joie de la pauvre dame. Elle voulut nous remercier et balbutia, serra la main à trois ou quatre d'entre nous, caressa Garonne et emmena son fils. Et nous les vîmes marcher vite, en parlant et en gesticulant, tous deux contents comme nous ne les avions jamais encore vus. Le professeur de mon père. Mardi 11. Quelle belle promenade j'ai faite hier avec mon père. Voici à quelle occasion. Avant-hier, à dîner, en lisant le journal, mon père poussa tout à coup un cri de surprise et nous dit « Et moi qui le croyais mort depuis 20 ans, mon premier professeur de classe élémentaire, ce pauvre Vincenzo Crosetti, est encore vivant. Il a 84 ans. Je viens de lire que le ministre lui a donné la médaille du mérite pour ses 60 ans d'enseignement. 60 ans, comprenez-vous, il n'y a que 2 ans qu'il a pris sa retraite. Pauvre Crosetti, il habite à 1 heure de chemin de fer de Tonio, à Condove, au pays de notre ancienne jardinière de notre Vella de Chieri. Il ajouta, « Henri, nous irons le voir. » Et pendant toute la soirée, papa ne parla que de son professeur. Le nom de son maître d'élémentaire ramenait à sa mémoire 1000 choses de ses jeunes années, de ses premiers camarades, de sa pauvre mère. « Crosetti, disait-il, il me semble le voir encore. Il avait 40 ans lorsque j'étais avec lui. Un petit homme déjà un peu courbé, aux yeux clairs, le visage imberbe, sévère, mais de manière polie, qui nous aimait comme un père et ne nous laissait pas passer une faute. De paysan, il était devenu professeur à force d'études et de privations. Ma mère l'aimait beaucoup, mon père le traitait comme un ami. Comment de Turin était-il allé finir à Condove? Il ne me reconnaîtra plus, certainement. N'importe, je le reconnaîtrai, moi. 44 ans ont passé. 44 ans, Henri. Nous irons le voir demain. Hier, à 9 heures, nous étions à la gare de Souze. J'aurais voulu que Garonne vînt avec nous, mais il n'a pas pu parce que sa mère est malade. C'était une belle journée de printemps. On traversait des champs verdoyants et des haies en fleurs qui parfumaient l'air. Mon père était content. De temps en temps, il passait son bras autour de mon cou et me parlait comme à un ami, tout en regardant la campagne. « Pauvre Crosetti, disait-il, c'est lui, après mon père, qui m'a le plus aimé et fait le plus de bien. Je n'ai jamais oublié ses bons conseils et même certains reproches durs qui me faisaient m'en retourner à la maison la gorge serrée. Je le vois encore quand il entrait dans la classe, mettant sa canne dans un coin et accrochant son pardessus au porte-manteau, toujours avec le même geste. Il avait l'humeur égale, l'esprit consciencieux, était plein de bonne volonté et attentif, comme si chaque jour il faisait sa classe pour la première fois. Je me rappelle lorsqu'il m'appelait. « Bottini, hé, Bottini ! L'index est le médus sur la plume !» À peine descendus à Condove, nous allâmes à la recherche de notre ancienne jardinière de Chieri, qui a une petite boutique dans une impasse. Nous la trouvâmes au milieu de ses enfants. Elle nous fit fête et nous donna des nouvelles de son mari, qui doit revenir de Gênes, où il est allé travailler depuis 3 ans, et de sa fille sourde-muette, qui est à l'institution des sourds-muets à Turin. Puis elle nous enseigna l'adresse du professeur Crosetti, lequel est connu de tout le village. Nous sortîmes du pays et nous prîmes un sentier montueux encadré de haies fleuries. Mon père ne parlait plus, absorbé dans ses souvenirs. Parfois il souriait ou bien secouait mélancoliquement la tête. Tout à coup il s'arrêta. « Le voilà, je parie que c'est lui, » dit-il. Un petit vieillard à barbe blanche, coiffé d'un chapeau à large bord, appuyé sur un bâton, descendait le sentier au-devant de nous. Sa démarche était incertaine, ses mains tremblaient. « C'est lui !» répéta mon père en pressant le pas. Quand nous fûmes près du vieillard, nous nous arrêtâmes. Lui aussi s'arrêta et regarda mon père. Ce bon vieux avait le visage encore frais et les yeux brillants. « N'est-ce pas au professeur Vincent Crosetti que j'ai l'honneur de parler ?» fit mon père en soulevant son chapeau. Le vieillard le salua. « À lui-même, » répondit-il d'une voix un peu tremblante mais sonore. « Eh bien, » ajouta mon père en prenant une des mains du vieillard, « permettez à un de vos anciens élèves de vous serrer la main. Je suis venu de Turin pour vous voir. » Le vieillard regarda mon père avec étonnement. « Vous me faites beaucoup d'honneur. Je ne sais... Quand étiez-vous mon élève ? Excusez-moi, votre nom, s'il vous plaît. » Mon père se nomma Albert Bottini et précisa la date de son entrée à l'école. Il ajouta « Peut-être ne vous souvenez-vous pas de moi, c'est naturel, mais moi, je vous reconnais si bien. » Le professeur baissa la tête et se mit à réfléchir en murmurant deux ou trois fois le nom de mon père, qui continuait à le regarder en souriant avec des yeux attendris. Le vieillard se souvint tout à coup, leva la tête et dit lentement « Albert Bottini, le fils de l'ingénieur Bottini qui habitait place de la Consolata ?»«
C'est cela !»
fit mon père tendant les mains.
« Alors permettez-moi, cher monsieur !»
Et s'étant avancé, le vieillard embrassa mon père. La tête blanche de Crosetti arrivait à peine à l'épaule de son élève, qui appuya ses lèvres sur son front vénérable.
« Ayez la bonté de venir avec moi !» dit le professeur.
Et sans parler davantage, il reprit le sentier qui conduisait chez lui. En quelques minutes, nous arrivâmes à un petit jardin précédant une maisonnette à deux portes, dont l'une était encadrée d'une bande de badigeons. Le professeur ouvrit celle-là et nous fit entrer dans une chambre aux quatre murs blancs. Dans un coin, un lit de camp avec un couvre-pied à carreaux bleus et blancs. Plus loin, un bureau surmonté d'une petite bibliothèque, quatre chaises et une vieille carte de géographie clouée au mur. C'était là tout le mobilier. Nous nous assîmes. Mon père et le professeur se regardèrent quelques moments en silence.
« Bottini ! » s'écria enfin le professeur, fixant ses yeux sur le carrelage dont le soleil faisait un échiquier.
« Oh, je me rappelle bien. Madame votre mère était une si bonne dame. La première année, vous étiez placé sur le premier banc à gauche près de la fenêtre. Voyez un peu si je me souviens. Je vois encore votre tête bouclée. »
Il fit une pause, réfléchit et continua.
Vous étiez un garçon très vif, hein? La seconde année, vous avez eu le croup et votre pauvre maman vous ramena à l'école, maigrie et enveloppée d'un châle. 40 ans sont passés depuis, n'est-ce pas? Vous avez été bien bon de vous souvenir de votre vieux professeur. D'anciens élèves comme vous sont venus me voir les années précédentes. Il y en a qui sont prêtres, colonels, enfin de conditions très diverses.
Monsieur Crozet y demanda à mon père quelle était sa profession.
En l'apprenant, il s'écria « Je suis content, très content !» Puis il reprit « Il y a déjà quelque temps que je ne vois plus personne et je crains bien que vous soyez mon dernier visiteur, cher monsieur. »«
Que dites-vous ? » fit mon père. « Vous êtes encore fort et bien portant. Vous ne devez pas dire cela. »
« Eh non ! Voyez ce tremblement !» répondit le professeur en montrant ses mains. « Voilà un mauvais indice. Il m'a pris il y a 3 ans lorsque je faisais encore la classe. D'abord, je n'y pris pas garde, je croyais que cela passerait, mais au contraire, le tremblement augmenta. Il vint un jour où il me fut impossible d'écrire. Ah, ce fut un coup porté au cœur, cher monsieur, lorsqu'un pâté tomba sur le cahier d'un de mes élèves. Je traînai encore un peu, puis je dus, après 60 ans d'enseignement, renoncer à l'école, à mes élèves, au travail. C'était dur, voyez-vous, très dur. La dernière fois que je donnais ma leçon, tous les écoliers m'accompagnèrent à la maison, me firent fête. Malgré ces démonstrations, j'étais triste, je comprenais que la vie était finie pour moi. L'année précédente, j'avais perdu ma femme et mon fils unique, il ne me restait que 2 neveux. Maintenant, je vis avec une pension de quelques centaines de francs, je ne fais plus rien, les journées sont sans fin pour moi. Ma seule satisfaction est de feuilleter mes vieux livres d'école, des recueils de journaux scolaires, quelques volumes dont on m'a fait cadeau. Là, dit le vieillard en montrant la bibliothèque, là sont enfermés tous mes souvenirs, tout mon passé. Il ne me reste rien d'autre au monde. Puis, soudain, d'un ton gai, je vais vous faire une surprise, cher monsieur Bottini. Il se leva, s'approcha de son secrétaire, ouvrit un tiroir qui contenait une quantité de petits paquets liés par des cordons de soie, sur chacun desquels était inscrit un nom et une date. Après avoir cherché un peu, il en ouvrit un, feuilleta quelques papiers et tira une feuille jaunie qu'il tendit à mon père. C'était un de ses devoirs, daté de 40 ans passés.
En tête, on lisait « Albert Bottini, dictée du 3 avril 1838 ». Mon père reconnut aussitôt sa grosse écriture d'enfant et se mit à lire en souriant. Mais soudain, ses yeux se mouillèrent de larmes. Je me levai et je lui demandai ce qu'il avait. Il me passa un bras autour de la taille et, me serrant à son côté, il me dit « Regarde cette page, tu vois ? Voilà des corrections faites de la main de ma pauvre mère. Elle renforçait toujours mes ailes et mes T. Les dernières lignes sont entièrement de sa main. Elle avait appris à imiter mon écriture et, quand j'étais fatiguée et que j'avais sommeil, elle terminait mon devoir. Ma sainte mère !» Et papa baisa la page. Cela, dit le professeur en nous montrant les autres paquets, ce sont mes mémoires. Chaque année, j'ai mis de côté un devoir de chacun de mes élèves. Ils sont là en ordre et numérotés. Quelquefois, je les feuillette, je lis une ligne ici, une ligne là, qui me rappelle mille choses, et il me semble que je revis dans mon passé. Que d'élèves, cher monsieur ! En fermant mes yeux, je vois visages derrière d'autres visages, classes après classes, centaines et centaines d'enfants. Qui sait combien sont déjà morts ? Je me souviens surtout des meilleurs et des pires, de ceux qui m'ont donné des satisfactions et de ceux qui m'ont contristé. Car dans le nombre, vous savez, il y a eu des serpents. Mais maintenant, vous comprenez, c'est comme si j'étais déjà de l'autre monde. Je les aime tous également. » Il se rassit et prit une de mes mains dans les siennes. « Et de moi ?» demanda mon père en souriant. « Vous ne vous rappelez aucune gaminerie ?»« De vous, monsieur ?» répondit le vieillard en souriant. « Non, pas pour le moment. Cela ne veut pas dire que vous n'en ayez point fait. Vous étiez sérieux pour votre âge. » Je me souviens de la grande affection que vous portez, madame votre mère. Savez-vous que vous avez été bien bon et bien gentil de venir me voir? Comment avez-vous pu laisser vos occupations pour venir visiter un pauvre vieux professeur? Écoutez, monsieur Crosetti, répondit vivement mon père, je n'ai pas oublié le jour de mon entrée à l'école. Ma pauvre mère me conduisait. C'était la première fois qu'elle se séparait de moi pour 2 heures, qu'elle me laissait hors de la maison entre des mains étrangères. Pour cette excellente mère, mon entrée à l'école était comme une entrée dans le monde, le commencement d'une longue série de séparations nécessaires et douloureuses. C'était la société qui lui arrachait son fils pour ne jamais le lui rendre tout entier. Elle était émue, moi aussi. Elle me recommanda à vous, cher maître, d'une voix tremblante, et quand, en s'allant, elle me sourit encore par la fente de la porte, les yeux pleins de larmes, vous lui fîtes un signe de la main pour la rassurer, comme pour lui dire « Madame, comptez sur moi ». Eh bien, ce mouvement, ce regard qui me fit comprendre que vous vous associez à l'émotion de ma mère, cette main posée par vous sur votre cœur pour donner du courage à la pauvre femme, ce geste d'indulgence, de bonté et de sympathie, je me le suis toujours appelé, il m'est resté gravé là pour toujours. C'est ce souvenir qui m'a fait quitter Turin pour venir vous dire, après 44 ans, « Merci, cher maître !» Le maître ne répondit pas. Il me caressait les cheveux avec sa main qui tremblait et passait de mes cheveux sur le front, du front à l'épaule. Pendant ce temps-là, mon père regardait les murs nus, le lit mesquin, un morceau de pain posé près d'une bouteille d'huile sur le rebord de la fenêtre, et il avait l'air de penser. « Pauvre maître, après 60 ans de travail, c'est là toute ta récompense. » Pour le bon vieillard, il était content et recommença à parler avec vivacité de notre famille, d'autres professeurs de ce temps-là et des compagnons d'école de mon père. Celui-ci rompit la conversation pour prier le professeur de descendre à Condove où il déjeunerait avec nous. « Non, je vous remercie, » dit-il. Et comme il paraissait indécis, mon père lui prit les 2 mains et le pria encore de venir. « Comment ferais-je pour manger avec ces pauvres mains qui dansent de cette façon ? » dit-il. « C'est une pénitence pour moi et pour les autres. »« Nous vous aiderons, maître, » dit mon père. Alors il accepta en hochant la tête avec un sourire. « Voici pour moi une belle journée, » dit-il en fermant la porte. « Une belle journée, cher monsieur Bottini. » Je vous assure que je m'en souviendrai tant que je vivrai. Mon père offrit son bras au vieux professeur dont je pris la main et nous descendîmes le sentier. Nous rencontrâmes deux fillettes nu-pieds qui conduisaient des vaches et un garçonnet portant une charge de paille sur l'épaule. Le maître nous raconta que ses enfants étaient écoliers de seconde, qu'ils menaient le matin les bestiaux au pré et le soir mettaient leurs souliers et venaient à l'école. Il était près de midi lorsque nous arrivâmes à l'auberge. Nous nous assîmes à une grande table, on plaça le professeur entre nous deux et nous commençâmes à déjeuner. L'auberge était silencieuse comme un couvent. Le pauvre vieillard, lui, était très gai et, l'émotion augmentant son tremblement, il ne pouvait presque pas manger. Mon père lui coupait sa viande et son pain, mettait le sel dans son assiette. Pour boire, le bon vieux devait tenir son verre à deux mains et encore battait-il contre ses dents. Il parlait beaucoup et avec chaleur des livres de lecture de sa jeunesse, des horaires d'alors, des éloges que ses supérieurs lui avaient faits, tout cela avec un rire presque jeune. Et mon père le regardait avec la même expression que je surprends quelquefois sur son visage à la maison, quand il me regarde et sourit à sa pensée intérieure. En parlant, le professeur épandit du vin sur son gilet. Mon père se leva et l'essuya avec sa serviette, tandis qu'il se défendait en disant « Mais non, monsieur, je ne permets pas !» Et il riait en prononçant des mots latins. À la fin, il leva son verre et dit avec gravité « À votre santé, cher monsieur, à vos enfants, à la mémoire de votre bonne mère. »« À la vôtre, mon cher maître !» répondit mon père en lui serrant la main. Au fond de la salle, l'aubergiste et ses gars nous regardaient d'un air satisfait, fiers de voir fêter ainsi le professeur du pays. À 2 heures, nous sortîmes et le professeur voulut nous conduire à la gare. Mon père lui donna le bras de nouveau et moi je repris sa main et lui portai son bâton. Les passants s'arrêtaient à nous regarder car tout le monde connaissait M. Crozetti et le saluait. À un certain endroit, nous entendîmes d'une fenêtre ouverte des voix d'enfants qui lisaient ensemble, épelant. Le vieillard s'arrêta et son front se rembrunit. « Voilà, cher monsieur Bottini, dit-il, ce qui me fait de la peine, entendre la voix des enfants de l'école et ne plus y être, penser qu'ils ont un autre professeur. J'ai entendu pendant 60 ans cette musique de voix enfantine et mon cœur s'y était habitué. » À présent, je suis sans famille, je n'ai plus d'enfants. Non, maître, reprit papa en continuant de marcher. Vous avez encore beaucoup d'enfants répandus dans le monde. Ils se souviennent de vous comme je m'en suis toujours souvenu. Non, non, dit le vieux avec tristesse. Je n'ai plus d'école, je n'ai plus d'enfants, et sans enfants, je ne vivrai pas longtemps. Ne dites pas cela, répondit mon père. Vous avez fait tant de bien, vous avez si noblement employé votre vie. Le pauvre vieux inclina un instant sa tête blanche sur l'épaule de mon père et me serra la main. Nous entrâmes à la station. Le train allait partir. Adieu, maître, dit mon père en embrassant M. Crozetti sur les deux joues. Adieu et merci, répondit le vieillard, prenant dans ses mains tremblantes une des mains de mon père et la serrant sur son cœur. Lorsque je l'embrassai, je sentis son visage humide de larmes. Mon père me poussa dans le wagon et, au moment de monter, enleva rapidement le bâton grossier sur lequel s'appuyait le maître et lui mit à la place sa belle canne à pommeau d'argent où sont gravées ses initiales. « Conservez-la en souvenir de moi, » lui dit-il. Le vieillard essaya de la rendre et de reprendre son bâton. Mais mon père était monté dans le compartiment et refermait la portière. « Adieu, mon bon maître !»« Adieu, mon fils » répondit-il, tandis que le train s'ébranlait. « Dieu vous bénisse pour la joie que vous avez procurée à un pauvre vieillard !»« Au revoir !» cria mon père d'une voix émue. Mais le maître baissa la tête comme pour dire « Nous ne nous verrons plus !»« Si, si !» répéta papa. « Au revoir !» Pour toute réponse, le vieux leva sa main tremblante. « Là-haut » fit-il. Et il disparut à nos yeux, la main toujours tendue vers le ciel. Convalescence. Jeudi 20. Qui m'aurait dit, quand je revenais tout content de ce petit voyage avec mon père, que pendant 10 jours je ne verrais plus ni campagne ni ciel? Je viens d'être très malade, en danger de mort. J'ai entendu maman sangloter. J'ai vu mon père tout pâle qui me regardait avec égarement. Ma sœur Sylvia et mon frère parlaient à voix basse et le docteur était toujours près de moi, me disant des choses dont je n'ai pas souvenir. Vraiment, j'ai été sur le point de dire adieu à tout le monde. Ah, pauvre maman! 3 ou 4 jours ont passé dont je ne me souviens plus, c'est comme si j'avais fait un rêve obscur et embrouillé. Il me semble avoir vu près de mon lit ma bonne maîtresse de première supérieure qui s'efforçait d'étouffer sa toux avec son mouchoir. Je me rappelle confusément mon professeur qui se penchait sur moi pour m'embrasser et me piquait un peu avec sa barbe. J'ai vu passer, comme à travers un brouillard, la tête rouge de Crossi, les boucles blondes de Derossi, le calabré vêtu de noir, Garonne qui m'apporta une mandarine ayant ses feuilles et s'enfuit tout de suite parce que sa mère est bien malade. Puis je me réveillai comme d'un long sommeil et je compris que j'allais mieux en voyant mon père et ma mère qui souriaient et en entendant Sylvia qui chantonnait. Oh, quel triste rêve! Je me sens mieux pourtant de jour en jour. Le petit maçon est venu, il m'a fait rire pour la première fois en faisant son museau de lièvre. Comme il le fait bien depuis que son visage s'est allongé par la maladie, le pauvre petit. Corette y est venue, Garoff y est venu. Il m'a fait cadeau de 2 billets d'une nouvelle loterie pour un crayon à 5 surprises qu'il a acheté à un revendeur de la rue Bertola. Hier, pendant que je dormais, Précoce y est venu. Il a mis ses lèvres sur mes mains pour ne point me réveiller et comme il venait de l'atelier de son père, le visage noirci de charbon, il a laissé une marque noire sur ma manche. J'ai été heureux de la voir en m'éveillant. Comme les arbres sont devenus verts en ce peu de jours. Et quelle envie me font les enfants que je vois courir à l'école, leurs livres sous le bras, quand papa me porte jusqu'à la fenêtre. Dans 2 jours, j'y retournerai moi aussi. Je suis si impatient de revoir tous ces chers écoliers, mon banc, le jardin, la rue, de savoir tout ce qui s'est passé pendant ma maladie, de me remettre à mes livres et à mes cahiers. Il me semble qu'il y a 1 an que je ne les ai vus. Pauvre maman, comme elle a pâli et amaigri. Pauvre papa, comme il a l'air fatigué. Et mes bons amis qui sont venus me voir, marchant sur la pointe du pied et m'embrassant sur le front. Je suis triste maintenant, en pensant qu'il faudra nous séparer un jour. Je sais bien que je continuerai mes études avec Derossi et quelques autres encore. Mais Garonne, Précoce, Coretti ne viendront plus, leur 4e achevé. Adieu. Nous les perdrons de vue, ils ne viendront point auprès de mon lit si je tombe encore malade. Quoi, tant de braves enfants, mes bons et chers compagnons, ne plus les revoir jamais. Les amis ouvriers, jeudi 20. Pourquoi plus jamais, Henri? Cela dépendra de toi. Ta 4e finie, tu entreras au collège et tes camarades seront ouvriers, mais vous resterez dans la même ville pendant beaucoup d'années, peut-être encore. Et alors, pourquoi ne vous reverriez-vous plus? Quand tu seras au lycée, tu iras chercher tes amis dans leur boutique ou à leur atelier, car tu auras du plaisir à y retrouver tes compagnons de classe, des hommes, au travail. Tu iras passer quelques instants en leur compagnie et tu verras, en étudiant la vie et le monde, combien de choses tu pourras apprendre d'eux que tu n'apprendrais de personne autre sur leur art, leur société et ton pays. Songe bien que si tu ne conserves pas ces amitiés d'enfance, il te sera difficile d'en faire de semblables, je veux dire hors de la classe à laquelle tu appartiens. Et ainsi, tu vivrais dans une seule classe sociale et tu serais comme l'homme d'études qui ne lirait qu'un seul livre. Propose-toi dès à présent de te conserver ces bons amis, même lorsque vous serez séparés, et cultive-les de préférence, justement parce qu'ils sont fils d'ouvriers. Vois, les hommes de classe supérieure sont les officiers, et les ouvriers sont les soldats du travail. Dans la société, comme dans l'armée, le soldat n'est pas moins noble que l'officier, parce que la noblesse est dans le travail et non dans le salaire, dans la valeur et non dans le grade, et s'il y a plus de mérite, c'est du côté du soldat, de l'ouvrier, qui tire moins d'avantages de leur travail. aime donc et respecte par-dessus tout les fils des soldats du travail. Honore en eux les peines et les sacrifices de leurs parents. Aime Garonne, Coretti, Precossi, le petit maçon qui, dans leur poitrine de petits ouvriers, renferme des cœurs de princes. Et jure-toi que nul changement de fortune ne pourra arracher de ton âme ces saintes amitiés de l'enfance. Qu'après 40 ans, si tu passes dans une station de chemin de fer et reconnais dans les habits noircis du mécanicien ton vieil ami Garonne, ah, je n'ai pas besoin que tu le jures. Je suis sûr que tu sauteras sur la machine et que tu embrasseras ton ami, même si tu es sénateur du royaume. La mère de Garonne. Samedi 29. À peine rentré en classe, j'apprends une triste nouvelle. Depuis plusieurs jours, Garonne ne venait plus parce que sa mère était gravement malade. Elle est morte samedi soir. Lorsque nous entrâmes hier à l'école, le professeur nous dit « Le plus grand malheur qui puisse arriver à un enfant vient d'atteindre Garonne. Il a perdu sa mère. Il viendra demain en classe et je vous prie dès à présent, mes enfants, de respecter sa cruelle douleur. Quand il entrera, accueillez-le avec affection et soyez sérieux, surtout que personne ne rit ou ne plaisante avec lui, je vous en prie. » Ce matin, en effet, un peu après les autres, Garonne entra. Je me sentis frappé au cœur en le voyant pâle, les yeux rouges, les jambes mal assurées. On aurait dit qu'il sortait d'une longue maladie, tant il était méconnaissable. Ainsi, tout vêtu de noir, il faisait pitié. Personne ne souffla mot, et tous, nous le regardâmes avec compassion. À peine entré, en revoyant cette classe où sa mère était venue le chercher presque chaque jour, ce pupitre sur lequel elle s'était tant de fois inclinée les jours d'examen pour lui faire une dernière recommandation et où il avait tant pensé à elle, impatient de finir pour courir à sa rencontre, Garonne éclata en sanglots désespérés. Monsieur Perbonne, il attira à lui, le serra sur son cœur. « Pleure, pleure, mon pauvre enfant, lui dit-il, mais prends courage. Ta mère n'est plus ici, mais elle te voit, elle t'aime encore, elle vit encore près de toi. Et un jour tu la reverras, car tu as une âme bonne et honnête comme la sienne. Courage, mon enfant !» Cela dit, il accompagna Garonne et à son banc près de moi. Je n'osais regarder Garonne. Il prit ses livres et ses cahiers qu'il n'avait pas ouverts depuis plusieurs jours, mais en ouvrant le livre de lecture, il tomba sur une vignette représentant une mère donnant la main à son enfant, et il éclata en sanglots une seconde fois, la tête inclinée sur son bras. Le maître nous fit signe de respecter ses pleurs, et il commença la leçon. J'aurais voulu dire quelque chose à Garonne, mais je ne savais quelle consolation lui donner. Je posai ma main sur son bras et murmurai « Ne pleure pas, Garonne !» Il ne répondit pas et, sans lever la tête du pupitre, mit sa main dans la mienne pendant quelques instants. À la sortie, personne n'osa parler au pauvre garçon. On tournait autour de lui en silence, avec respect. Je vis ma mère qui m'attendait et je courus pour l'embrasser, mais elle m'écarta en voyant Garonne. Je ne compris pas tout de suite pourquoi. Mais je m'aperçus ensuite que Garonne me regardait avec une tristesse indescriptible. Il semblait me dire « Tu embrasses ta mère et je n'embrasserai jamais plus la mienne. Tu as ta mère et la mienne est morte. » Je compris alors pourquoi maman m'avait écarté et je sortis sans lui prendre la main. Valeurs civiques. Récit mensuel. À midi, nous étions avec notre professeur devant la préfecture pour voir donner la médaille de la valeur civique à un enfant qui avait sauvé un de ses camarades qui se noyait dans le pot. Un grand drapeau tricolore flottait au balcon de la façade. Nous entrâmes dans la cour. Il y avait déjà beaucoup de monde. On voyait au fond une table couverte d'un tapis rouge où s'amoncelaient des papiers, puis une file de fauteuils dorés pour le maire et les conseillers municipaux. À droite de la cour était rangé un peloton de la garde civique où figuraient plusieurs hommes médaillés. De notre côté se trouvaient les pompiers en grand uniforme et des soldats de toutes armes venus là par curiosité. Il y avait des messieurs, des paysans, des officiers, des dames et des enfants. Nous nous mîmes dans un coin où il y avait déjà beaucoup d'élèves d'autres sections avec leurs professeurs et non loin de nous se trouvaient des enfants de 10 à 12 ans qui riaient et parlaient fort. C'étaient des écoliers du faubourg Pau, amis ou camarades du petit héros qui devait recevoir la médaille. À toutes les fenêtres donnant sur la cour étaient accoudés des employés de la préfecture. La terrasse de la bibliothèque se trouvait également pleine de monde et du côté opposé au-dessus de la porte d'entrée était niché un grand nombre de filles des écoles publiques. On aurait dit un théâtre avec toutes ses loges et son parterre encombré. On parlait joyeusement, regardant de temps à autre du côté de la table pour voir si personne n'apparaissait. La musique jouait doucement au fond du portique, et sur le haut des murs, le soleil brillait. Tout à coup, on entendit des applaudissements partir de la cour, de la terrasse et des fenêtres. Je me soulevai sur la pointe des pieds pour mieux voir. La foule qui était devant la table rouge s'était ouverte, livrant passage à un homme et à une femme. L'homme tenait un enfant par la main. Cet enfant était celui qui avait sauvé son camarade. L'homme était son père, un maçon, habillé comme au jour de fête. La femme, sa mère, petite et blonde, portait une robe noire. L'enfant, blond et petit, lui aussi, avait une jaquette grise. En voyant tant de monde, en entendant tous ces applaudissements, ils restèrent interdits tous les trois, sans oser ni regarder ni se mouvoir. Un huissier de la ville les poussa près de la table, à droite. On resta silencieux un moment, puis les bravos reprirent de plus belle. Le garçon regardait les fenêtres, tenant son chapeau à la main. Il me sembla qu'il ressemblait un peu à Coretti. Son père et sa mère tenaient les yeux fixés sur la table. Cependant, les enfants du faubourg Pau, qui se trouvaient près de nous, s'avancèrent en faisant des signes à leurs camarades pour se faire voir, l'appelant à voix basse. « Pim, pim, Pinot !» À force de l'appeler, ils se firent entendre. Le garçon les regarda et se mit à sourire derrière son chapeau qu'il tenait à la main. À ce moment, les gardes municipales firent le mouvement de garde à vous. Le maire entra, accompagné de plusieurs messieurs. Il se mit debout devant la table, son écharpe tricolore à la ceinture. Les autres messieurs se rangèrent autour de lui. La musique cessa de jouer. Le maire fit un geste, tout le monde se tut. Il commença à parler. Je n'entendis pas bien les premières phrases, mais je compris qu'il racontait le trait de courage de l'enfant. Peu à peu, la voix s'éleva et se répandit, claire et sonore, dans toute la cour, de façon que je ne perdis pas un mot. Lorsqu'il vit de la rive son camarade qui se débattait dans le fleuve, déjà aux prises avec la mort, il arracha ses vêtements et accourut sans hésiter un moment. On lui cria « Tu vas te noyer !» Il ne répondit pas. On voulut l'arrêter. Il repoussa ses amis. On l'appela, il était déjà dans l'eau. Le fleuve était houleux, le danger terrible, même pour un homme. Mais il s'élança contre la mort de toute la force de son petit corps et de son grand cœur. Il rejoignit et saisit à temps le malheureux qui était déjà sous l'eau. Il l'éleva au-dessus et lutta furieusement contre le courant qui voulait l'entraîner, tandis que son camarade tentait de l'enlacer. Plus d'une fois, il disparut et il revint à la surface par un effort désespéré. Obstiné, invincible dans sa noble entreprise, non comme un enfant qui veut sauver un autre enfant, mais comme un homme, comme un père sauvant son fils qui est son espérance et sa vie. Enfin, Dieu permit qu'une prouesse si généreuse ne fût pas inutile, le petit nageur arracha la victime au fleuve géant et le rapporta à terre. Il lui prodigua encore avec d'autres les premiers soins. Puis il s'en retourna chez lui, seul et tranquille, raconter ingénument ce qu'il avait fait. Messieurs, l'héroïsme de l'homme est beau et vénérable. Mais dans l'enfant, où aucune visée d'ambition ou d'intérêt n'est encore possible, dans l'enfant qui doit déployer d'autant plus d'audace qu'il a moins de force, dans l'enfant à qui nous ne demandons rien, qui n'est tenu à rien, et que nous trouvons suffisamment noble et aimable quand seulement il comprend, sans en être capable, le sacrifice d'autrui, dans l'enfant, dis-je, l'héroïsme est divin. Je n'ajouterai rien, messieurs, je ne veux pas décorer de louanges superflues une si simple grandeur. Le voilà devant vous, ce noble et vaillant sauveur. Soldats, saluez-le comme un frère. Mère, bénissez-le comme un fils. Enfants, souvenez-vous de son nom, imprimez son visage dans votre mémoire et dans votre cœur. Approche, mon garçon. Au nom du roi d'Italie, je te donne la médaille de la valeur civique. » Un bravo formidable, poussé par mille bouches, ébranla les airs. Le maire prit la médaille sur la table et l'attacha à la poitrine de l'enfant. Puis il l'embrassa à plusieurs reprises. La mère porta la main à ses yeux, le père baissait la tête. Après avoir serré la main de ses heureux parents, le maire prit le décret de la décoration, noué par un ruban, et le tendit à la femme. Se tournant ensuite vers le garçon, « Que le souvenir de ce jour si glorieux pour toi, si doux pour ton père et ta mère, te maintienne pour toute ta vie sur le chemin de la vertu et de l'honneur. Adieu, Pinot !» Le maire sortit, la musique se mit à jouer, et tout semblait fini, lorsque le détachement des pompiers s'ouvrit, livrant passage à un enfant de 8 à 9 ans qui s'élança vers le héros de la fête et tomba dans ses bras. Des applaudissements et des cris firent de nouveau résonner la cour. On avait compris que c'était l'enfant sauvé du fleuve qui venait remercier son sauveur. Après l'avoir embrassé, l'enfant prit le bras du petit Pinot pour l'accompagner. Tous deux marchaient devant, suivis par le père et la mère, se frayant un chemin entre la haie humaine pressée pour les voir et les saluer. Ceux qui se trouvaient le plus près de l'enfant lui tendaient la main, et lorsqu'il passa devant les écoliers, ceux-ci agitèrent en l'air leur béret. Les camarades du faubourg Pau firent au petit héros une véritable ovation, le tirant par le bras ou la jaquette en criant « Vive Pinot ! Bravo, Pinot !» Je vis Pinot passer tout près de moi, le visage enflammé par la joie, la médaille attachée par le ruban tricolore. Sa mère riait et pleurait à la fois. D'une main émue et tremblante, comme s'il avait la fièvre, le père se tortillait la moustache. D'en haut, aux fenêtres et aux balcons, on se penchait et on applaudissait. Tout à coup, au moment où les Pinot allaient passer sous le portique de la préfecture, il tomba sur eux, du balcon où se tenaient les filles des écoles, une véritable pluie de fleurs, des bouquets de pensées, de violettes et de marguerites qui s'éparpillèrent sur la tête de l'enfant, du père et de la mère avant de tomber à terre. On se mit vite à recueillir les fleurs et on les tendit à la mère. Et la musique continuait à jouer un air admirable qui semblait le chant de voix argentines emportées au loin par le courant d'un fleuve.